40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro au soir ou du travail ou en direction des vacances, c'est le retour de 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Ah, comme ça fait plaisir. 40 mètres, les gars.
Ouais, le quiz.
Ouais, bonjour Christophe, ça va?
Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est en effet 40 mètres, les gars.
Ouais, le quiz.
Et ouais.
Et vraiment, on est désolé pour ces dernières... On travaille trop. On a enfin eu un peu de temps pour venir vous voir pour un nouveau quiz, le 66e épisode déjà.
Ok.
C'est dingue, hein.
Dingue.
Épisode spécial série aujourd'hui.
Série.
D'ailleurs, est-ce qu'on a un joker?
Ah, non. C'est vrai.
Ben voilà.
On a commencé trop vite.
Pas de joker, les gars. C'est le joker.
Ok.
Et puis également un question twist.
Twist. Oh
accompagné de ces hurlements, là c'est vous qui décidez, plus 1000, moins 1000, moins 12, plus 12, on change d'épouse ou de pantalon, c'est à vous de choisir, la question twist permet de relancer l'intérêt de ce quiz, et pour le joker, pas de joker, quand vous voulez, avant l'énoncé d'une question, vous doublez les points sur la question qui suit, si vous répondez bien, bien sûr.
Pire joker du monde.
Eh, pas de joker.
Eh, pas de joker, les gars. Le quiz.
Ok.
Ah non, ça marche pas. Allez, c'est à vous, première question, quiz série aujourd'hui.
Oui. Quelle désormais légendaire série qui a eu droit à un spin-off qui marche de fou à la télévision américaine, indice, se termine après 12 saisons par un épisode intitulé Le Syndrome de Stockholm.
C'est vrai que c'est l'une des séries, le spin-off qui marche le mieux aux États-Unis.
Oui, justement, on en a parlé dans l'épisode spécial télévision, c'est une série humoristique.
Oui, tout le monde a au moins vu une fois un épisode.
Bah ouais, surtout que c'est multi-rediffusé, hein, c'est Big Bang Theory, bien sûr.
Theory.
C'est le 279e épisode de la série. Ils n'auraient pas voulu faire 280.
Non.
Épisode durant lequel, spoiler, Sheldon et Amy reçoivent le prix Nobel de physique. Ouais. Et Penny révèle être enceinte.
Oh.
Diffusé le 16 mai 2019, il a été ce soir-là suivi par 18,53 millions de téléspectateurs.
Ça me manquait.
Le syndrome de Stockholm, dernier épisode.
Parce que c'est à Stockholm.
Je sais pas si ça se passe à Stockholm. Oui, ils reçoivent le prix Nobel. Mais oui, sans doute, vous avez raison.
Bah oui.
Je l'ai vu en plus, mais je me souviens
aussi.
Pas.
Bon, okay. Moi non plus. Deuxième question. Quel personnage de film fictif et drôle créé par Seth MacFarlane? Je l'ai bien dit?
Non.
Non? C'est comment?
Bah, je sais pas, Seth MacFarlane.
Ah, peut-être. Ah, MacFarlane.
Ouais, okay. Bah non, vous avez raison, hein, c'était Seth MacFarlane.
Extrait du film sorti en 2012 et qui porte d'ailleurs le nom de ce personnage, a désormais sa propre série, réalisée par Seth MacFarlane. Seth MacFarlane.
Ok.
C'est Seth ou Seth?
Bah, moi je dis Seth.
Oui, parce qu'on est français.
Oui.
Vous avez vu passer l'info d'ailleurs?
Oui.
Pas de Joker, les gars! Je crois que ça a saturé. Et la réponse est Ted.
Eh oui.
Ouais, bizarre. Hein
non.
Enfin oui, non. Ted est une série télévisée comique américaine créée par Seth MacFarlane pour Peacock. La chaîne Peacock?
Non, c'est la plateforme de streaming de NBC notamment, effectivement. Oui, c'est un peu le MyCanal d'NBC ou plutôt le TF1+ de NBC.
Oh, et donc vous êtes à la page.
C'est le Netflix de NBC.
De NBC. Voilà. C'est le Prime.
Peacock.
C'est le Prime.
Exactement.
De...
Et Peacock veut dire
Le pont.
Exactement, c'est le logo.
Eh oui, bah oui, c'est les différentes couleurs. Donc basé sur le film de 2012 du même nom, troisième volet de la franchise Ted, il sert de préquel, comme on dit en France, au long métrage.
Oui.
MacFarlane reprend son rôle de voix du personnage principal. La série est sortie le 11 janvier 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Non.
Se déroulant en 93 entre la scène d'ouverture et l'intrigue principale de Ted 2012, qui est sorti en 2012 le film, la série relate les premières aventures d'un ours en peluche sensible nommé Ted, alors qu'il vit avec le jeune garçon de 16 ans John Bennett et sa famille à Framingham, Massachusetts. J'aime bien quand vous faites les mots comme ça.
Framingham, Massachusetts. Voilà. Non, Massachusetts. Bitch.
Ted est bientôt obligé d'aller à l'école avec John, ce qui cause toutes sortes de problèmes.
Ah ouais.
Ça me fait un peu penser à Alf.
Oui, vous l'avez noté.
Oui, oui, parce que je me suis dit, je vais l'oublier. Pas de date de diffusion en France, ni de diffuseur pour l'instant. Seth MacFarlane.
Ouais.
On vous le rappelle, c'est les Griffins, American Dad, et donc Ted, film et série. On continue?
Avec plaisir.
Pas de Joker, les gars.
Pas de Joker, les gars.
C'est le Joker.
Charlie, music.
RFM, le meilleur de la musique.
Le
Waouh.
Merci, c'est mon métier.
On y est.
On y est, bien sûr qu'on y est.
Et tout de suite, on retrouve Patanjali avec la météo. Oh non, vous avez sans doute reconnu Laurent Voulzy.
Bien sûr.
Mais qui est cette comédienne qui interprète Désir Désir à ses côtés? Un indice, série, c'est elle qui tenait le rôle principal dans Pause Café, dont on a déjà parlé.
J'en ai... Mais j'ai jamais vu Pause Café.
Mais c'était... Mais oui, on en a déjà parlé. Oh. C'était la série mythique. Moi, j'adorais Pause Café. Oui, ça a été rediffusé, bien sûr, parce que c'est un petit peu trop vieux pour que j'ai pu connaître.
D'accord.
Mais c'est Véronique Jeannot.
Bien sûr.
Véronique Jeannot débute à la télévision en 1972 dans Le Jeune Fabre de Cécile Aubry avec Mehdi.
Ben oui.
Ouais, voilà. Et enchaîne au théâtre dans L'École des femmes. Mmh. Et non pas L'École des fans, bien sûr. Hein. Après avoir tourné dans le feuilleton Paul et Virginie, elle joue dans le téléfilm Aurore et Victorien un premier rôle en costume qui lui permet de monter à cheval pour la première fois à l'écran. Vraiment les infos utiles.
Incroyable.
Et inutiles. Hein. Suivront ensuite trois autres feuilletons. Qui j'ose aimer, d'Hervé Bazin en 77, Les Amours sous la Révolution et Léopold de Bien-Aimé en 1978.
Que de chef-d'œuvre.
Et enfin, en 79, le cinéma lui ouvre ses portes. Elle joue dans Le Toubib de Pierre Gagné de Fer avec Alain Delon.
Allez.
Et en 80, son visage est connu de toute la France. Elle interprète Joëlle Mazard, l'assistante sociale de la série Pause Café. Grâce à ses records d'audience, Pause Café sera suivi 2 ans plus tard de Joëlle Mazard. C'est le spin-off en quelque sorte. Elle débute justement dans la chanson en interprétant le générique de la série.
Jamais entendu, hein, je vous le dis.
J'avais peu de souvenirs du générique.
Ouais.
On entre dans la vie sans frapper.
Mmh. Ouais.
On comprend pourquoi on s'en souvient
les
pas. Oh, je suis méchant, pardon.
Mais c'est comme ça qu'elle débute dans la chanson.
Ah, ok, d'accord.
Et oui, et puis après, elle a effectivement une longue relation avec Laurent Voulzy.
Ah.
Ils sont restés 10 ans ensemble.
Ah ouais?
Eh oui.
Ah, je savais pas.
Ah, voilà,
j'en parlerai lors de mes prochaines interventions sur RFM.
C'est vrai?
Ouais, je vous ferai un petit clin d'œil.
Avec plaisir.
Si vous écoutez RFM
non.
Et que vous en. Ok. pas de Joker, les gars. C'est le Joker. Allez, question série.
Oui.
Et un peu cinéma.
Ah.
Un petit peu. Quel réalisateur de films comme Zodiac, Panic Room ou encore Gone Girl a également réalisé une partie des séries Mindhunter, House of Cards et Love, Death and Robots. Robots, quoi.
Ouais.
Voilà, quoi. Bon, là, normalement, on parle régulièrement.
J'ai déjà pas mal parlé. Ouais. Hein.
Mais j'ai pas mis les films les plus
marquants de sa filmographie.
Non, c'est ça. J'ai essayé de la jouer comme ça. Mais je crois qu'on en a parlé lors de du dernier quiz.
Ouais, c'était il y a longtemps.
Oui, c'est vrai. C'était en 96. Merci encore d'être avec nous. David Fincher, bien sûr.
Eh ouais.
Eh oui, David Fincher est né le 28 août 1962 à
Denver, Colorado.
Thank you. Et réalisateur, bien sûr, et producteur américain. Il a bien sûr réalisé Seven. Voilà, j'en ai pas parlé. Alien 3.
Ouais, dans les Seven. Hein,
dans les Seven.
voilà. What's in the box? Attends.
Il y a les chèvres là-haut.
Il y a les Seven.
Les mecs qui parlent avec l'accent de l'Ovalie.
Dans les Seven.
On voyage en France. Dans les Seven, donc, Alien 3, Fight Club.
Bien sûr.
Bien sûr. Et donc également des épisodes de ces excellentes séries. House of Cards, que je n'ai jamais vu.
Moi non plus.
Voilà. Saison 1, épisode 1 et 2.
Ok.
Ouais, voilà.
Après, il s'est cassé.
J'en ai marre. Mindhunter, saison 1, 4 épisodes. Et saison 2, 3 épisodes. Très bonne série, ça, par contre. Vous l'avez
pas
vu?
Pas vu. Non.
Ah, ça, franchement, ça,
je sais.
Et 2022, Love, Death and Robots. J'ai du mal avec Robots. Volume 3, épisode 2. Mauvais voyage, c'est le nom du jamais vu non plus. Et puis pour la petite histoire David Fincher.
Oh mince.
Ah oui, j'en ai des petites histoires. David Fincher a également refusé de nombreux projets. Ainsi, il a décliné l'opportunité de réaliser Star Wars 7.
Okay.
Le réveil de la force quand même.
Ouais.
Pour des désaccords artistiques, il refusa également de réaliser Spider-Man,
voilà.
Batman Begins et Mission Impossible 3.
Ah le gars non.
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 Laissez-moi tranquille alors, je veux pas.
Une perle à bourre.
Non.
Ouais, ok. D'ailleurs, je vous mettrai l'extrait la semaine prochaine. Question numéro 5.
Haine et passion. Ça vous dit quelque chose?
Absolument pas.
Eh bien, j'avoue, je ne connaissais pas non plus. Pourtant, il s'agit de la série la plus longue de l'histoire. Et oui, on en a, je crois, jamais parlé.
Non.
Et pourtant, c'est bien elle. 18 262 épisodes pour ce soap. Mais sur combien de saisons?
Waouh. Ça aurait pu être une question joker, ça.
C'est vrai.
Donc, c'est plus long que Les Feux de l'amour?
C'est plus long.
Mais incroyable. Ok, c'est fini ou c'est encore
oui,
en diff?
C'est fini.
Ah, oh. D'accord. Donc un jour, Les Feux de l'amour passeront devant.
72 saisons. 72 saisons pour 57 ans d'existence à la TV. Alors comment est-ce possible?
Oui.
Eh bien tout simplement parce que les premières saisons de cette série ont été diffusées à la radio.
Oh.
Et oui, elle a commencé à la radio avant de passer à la télé. Haine et passion et les vertiges de la passion. Guiding Light. I'm blinding by light. Est un feuilleton télévisé américain en 18 262 épisodes créé par Irma Phillips et Eamon Carlson, diffusé du 30 juin 52 au 18 septembre 2009 sur CBS. Ça, c'est pour la télévision.
Okay.
Mais sa toute première apparition est retransmise dès le 25 janvier 37 jusqu'au 29 novembre 46 sur NBC Radio. Okay. Et ensuite, c'est passé de 47 à 56 sur CBS Radio.
Génial.
Haine et Passion était le premier feuilleton le plus ancien de l'histoire de la télévision avant As the World Turns, Hôpital Central, des jours et des vies, les feux de l'amour et Amour, gloire et beauté.
Amour, gloire et beauté. Des... qui font rêver. Pardon.
Aux États-Unis, il était le premier feuilleton en audimétrie de 56 à 58 et il était sponsorisé,
oui.
Ce n'est pas noté là, mais par une marque de
bière.
Ben non.
Cigarette.
Soap. Savon.
Soap. Oh.
D'où les soap opéra.
Ouais.
Ben oui, c'est parce que les sponsors étaient des marques de savon.
Ah, merci.
Ça a donné lieu, effectivement, à ce mot désormais, les soap opéra. Il s'achève le 18 septembre 2009 après 57 ans et il compte 15 762 épisodes diffusés sur le réseau CBS. Donc, le chiffre d'avance, ça comptait également les épisodes à la radio.
Okay.
Et en France, le feuilleton a été partiellement diffusé. Alors là, ça a été une merde sans nom. Hein. À partir du 7 septembre 1987, à partir de l'épisode 9000 environ.
Oh les gars.
Jusqu'au 21 octobre 94, épisode datant de 86,
oh là là.
Donc 10 ans de retard déjà, sous le titre de Haine et Passion sur TF1. Puis, du 6 septembre 2004, à partir de l'épisode 13815 environ, jusqu'au 17 septembre 2004, sous le titre Les Vertiges de la Passion sur France 3, avec des épisodes datant de 2002.
Quel bordel!
Ah ouais, non, mais pour les gens qui voulaient suivre.
On a quoi là? Il y a une case? Vas-y, prends la saison 40
au
là!
Au pif!
Génial, mais merci pour l'info soap! C'est génial, je savais pas que ça venait de là.
C'est connu.
Ah ouais?
Si j'avais su, j'aurais fait une question.
Bah oui, bah c'est fini, vous ne pouvez plus.
Non.
Ouais, c'est comme ça. Hé! Pas de joker, les gars!
Pas de joker, les gars!
Les mecs, ils reviennent, ils ont pas bossé.
Non, rien.
Quelle série germano-autrichienne, puis italienne,
ah bon,
met en scène un chien? Chien qui aide à résoudre des enquêtes. Si vous étiez malade et que vous êtes tombé sur France 3, vous avez forcément vu un...
C'était plutôt même France 2, hein.
Ah ouais, au début c'était France 2, ouais, c'est vrai. Et après c'est passé sur France 3. J'ai regardé des épisodes il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai découvert qu'il y avait que c'est passé en Italie après.
Ok.
Rex, chien flic.
D'accord.
Rex, bien sûr.
Ou Rex au Québec.
Ou commissaire Rex en
Commissaire Rex,
voilà, en allemand ou en autrichien, et Il Commissario Rex en italien.
Ah si.
C'est une série télévisée germano-autrichienne puis italienne en 208 épisodes, dont 7 épisodes de 90 minutes et 201 épisodes de 45 minutes.
Ah ouais, c'est précis.
Oui, très précis, on rigole pas. La première série est créée en 93 en Autriche.
Okay.
Après l'arrêt de cette série pendant 4 ans, une seconde série est produite et diffusée en Italie du 29 janvier 2008 au 19 juin 2015 sur la chaîne Rai Due.
Si.
Et diffusée en France à partir de 9 février 2010 sur France 2 et désormais sur France 3. Et j'ai deux faits amusants.
Ouais.
Oui. Déjà, le vrai nom de Rex, puisque c'est un surnom.
Ah ok.
Eh oui. Son vrai nom, c'est Reginald von Ravenhorst.
Sérieux?
Ouais.
Le Kleps?
Le chien, ouais. Le Schleps. Comme
ouais.
Reginald von Ravenhorst. Et puis surtout, Rex est la série télévisée européenne la plus vendue dans le monde.
Ok. Non, mais parce que derrière, je vois juste derrière Alerte à Malibu.
Oui. Et la deuxième, tout continent confondu.
Ah, bah j'avais pas lu, oui.
Et voilà.
Je me suis dit, c'est pas européen, Alerte à Malibu.
Bah non.
On nous a menti.
Oui. Mais quand même, je pensais pas que Rex faisait le tour du monde comme ça, quoi.
Bah non. Ok. Bah oui, mais les chiens s'appelaient.
Eh, les chiens, non. Ah non! Pas de chiens! Les chats!
Ok.
C'est bon, je vous ai calmé?
Oui.
Merci. Pardon.
Très agressif.
Oui, mais quoi, quand on parle de chiens, c'est non. Allez, on continue.
Le titre. Métastasis ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il s'agit d'un remake sud-américain de l'une des séries US les plus respectées de l'histoire. Est-ce que je donne l'indice? Parce que si je donne l'indice, vous allez immédiatement trouver la série.
Pas d'indice. Jamais vu.
Métastasis. Non, mais personne n'a vu.
Quoi, cette série?
Bah oui.
Pourquoi?
Bah parce que je pense pas qu'elle ait été diffusée en France. C'est une série colombienne.
Ah. Non, mais je parlais de la série sur laquelle...
Ah, l'original.
Ouais.
Alors, l'indice, c'était le nom du héros principal, Walter Blanco. Et pourquoi il s'appelle Walter Blanco? Parce que, eh bien, dans la série originale, c'est Walter White.
Bah voilà.
Walter Blanco. Et c'était Breaking Bad. Oui, la série a eu droit à une adaptation colombienne en telenovela.
Ça doit être incroyable.
En d'autres mots, la série était diffusée à raison d'un épisode par jour pendant 5 saisons et sur une seule année.
Oh.
Donc il y a eu 5 saisons en un an.
Okay.
En mars 2013, Sony a développé une adaptation pour l'Amérique latine sous le titre Metastasis. Les métastases, hein, tout simplement, en référence bien sûr au cancer de Walter White. Donc mettant en vedette Diego Torrio dans le rôle de Walter Blanco, Walter White, Roberto Urbina dans le rôle de Rory Miguel Rosas. Jesse Pinkman, Rosas, Rose Pinkman, vraiment ils se sont ils se sont fait plaisir quoi. Sandra Reyes dans le rôle de Cielo Blanco et Skyler White, Skyler le Sky Cielo Blanco.
Génial.
Et bon après il y a plein d'autres rôles. Et l'action se déroule en Colombie, on dirait une série sur la drogue en Colombie.
Facile.
Le pilote a été diffusé le 8 juin 2014 en simultané sur les réseaux américains de langue espagnole Univision, Galavision et Unimaf et a réuni collectivement 3,4 millions de téléspectateurs.
Ça me donne quand même, j'ai presque envie de regarder cette série avant Breaking Bad.
Ça doit être dingue parce que comme dit c'est une telenovela hein, donc c'est vraiment je sais pas à quel point ils ont repris les intrigues de la vraie série qui est un chef-d'œuvre.
À ce qui paraît.
Charlie, c'est un chef-d'œuvre.
Vous l'avez vu ?
Bien sûr, je l'ai vu.
Oh.
Il y a juste un épisode de la saison 1, la mouche.
Qui est chiant.
Bah oui, parce qu'ils avaient plus de thunes, alors tout l'épisode se passe dans un endroit où ils cherchent une mouche.
Comment on appelle ça à nouveau les épisodes comme ça ? On en a déjà parlé, je crois.
Oui, mais je sais plus.
Très bien. Bah, vous réécoutez.
Les épisodes où il y a pas de thunes.
pas de Joker, les gars.
Ouais.
C'est le Joker. Quelle série réalisée par Ben Stiller ?
Ouf, t'es
dingue. Merci. Raconte l'histoire d'employés de bureau qui ont subi une opération visant à séparer leurs souvenirs
tout le monde en parlait.
Professionnels des souvenirs personnels.
Tout le monde en a parlé l'année dernière.
Mais parce que franchement, c'est une super série.
Pas c'est génial.
Ouais, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment, non, si, c'est super. C'est super.
Tu prends un thé.
La deuxième saison arrive bientôt d'ailleurs. J'ai hâte. Severance ou
Dissociation au Québec.
Ça marche toujours. Série télévisée américaine créée par Dan Erickson et réalisée par Ben Stiller.
Ah ouais.
Ah ouais, on attend plus dans l'humour. Là, c'est une série relativement... je vais pas dire que l'humour, c'est pas intelligent, mais là, c'est un peu plus profond.
Oui, l'humour de Ben Stiller n'est pas forcément des plus intelligents.
Moi, j'aime bien. Et diffusée depuis le 18 février 2022 sur Apple TV+. Le pitch est simple. Chez Lemon... ou Lumon Industries, je pensais plus Lemon.
Lemon
Industries. Un programme est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels et les souvenirs professionnels des employés. Qu'est-ce que c'est ?
Bah, j'ai essayé de faire Lemon Trees.
Je crois qu'on n'y était pas.
Non. La tournée. Allez, un programme donc est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels et les souvenirs professionnels des employés.
Ils ont volontairement subi une dissociation. Dissociation, Severance, je savais pas. Que
ça... Moi non plus.
Voilà, bah maintenant vous le savez. Une puce ayant un.
On le sait jusqu'à dans 5 minutes, hein,
oui,
comme d'habitude.
C'est clair. Une puce ayant été introduite à cet effet dans leur cerveau, dans l'entreprise. Les employés sont les inters, les inis. Quand ils quittent après 17h, ils sont les exters, les outies. Alors c'est pas très clair ce que je viens de dire.
Non.
Je vais le refaire. Dans l'entreprise, les employés sont les inters. Donc dans l'entreprise, ils sont dedans, les innies. Quand ils quittent après 17h, ils sont les exters. Voilà, ça paraît logique, c'était pas vraiment important. Et ils n'ont alors plus aucun souvenir de leur vie à l'intérieur de Lemon et inversement à l'extérieur.
Ouais.
Mais ce n'est pas aussi simple. Allez découvrir cette excellente série, la saison 2 arrive bientôt.
Merci Charlie Weber.
Parce que je peux un peu. Quelqu'un arrive à rentrer
dans le programme,
dans l'entreprise. En gardant ses souvenirs de l'extérieur.
Oh.
Et du coup, ça fout un peu le...
Enfin, aïe, aïe, aïe.
Je vous en dis pas plus. Allez voir. Question numéro 9.
À la Maison Blanche ou The West Wing, pour les puristes, est l'une des grosses séries du début des années 2000. Que vous l'ayez suivi ou pas, vous pourrez peut-être nous dire qui y interprétait le président des États-Unis. Un indice, son fils était notamment un tonton célèbre de la télévision.
Oh, qui est un peu... Comment dire ?
Oui.
Bon bah non, je peux pas dire qu'il aime.
Non.
Bah, j'adore.
Oui.
Cet homme tire sur des gens désormais.
Non.
C'est pas lui ?
Non.
Ah bon ?
Bah
c'était
oui.
Lui ?
Non.
Bah quand dans un film, il avait une arme.
Mais
qui
non,
était en fait...
c'est un des frères Baldwin.
Ah bah voilà, je me suis trompé.
Bah carrément, ouais, parce que là c'est Martin Sheen. Bah ouais.
Bah c'est pas lui.
Bah, voilà. Peut-être qu'il tire sur des gens, hein. Non, on connaît pas son quotidien, mais enfin, a priori, en tout cas, c'était pas lui. Hein.
Bah il se ressemble un peu, je trouve.
Oui, enfin, il y a quand même quelques longues années de différence. Bon, en tout cas, à la Maison Blanche de West Wing, série télévisée américaine en 155 épisodes de 42 minutes, créée par Aaron Sorkin et diffusée entre le 22 septembre 1999 et le 14 mai 2006 sur le réseau NBC.
Encore.
En France, elle a été diffusée sur France 2, France 4 et Série Club, à l'époque où Série Club était une immense chaîne.
Ouais.
Passer toutes les séries en avant-première, Oz, The West Wing, puis toutes les vieilles séries que j'ai adorées comme Troisième Planète après le Soleil ou encore Cheers.
Cheers.
Cette série met en scène la vie quotidienne d'un président démocrate des États-Unis et de son équipe de collaborateurs installés dans l'aile ouest de la Maison Blanche, d'où
West
The West Wing.
Okay.
Exactement, c'est connu comme ça, l'aile ouest, hein, The West Wing. les grands sujets de société comme le racisme, l'éducation, la santé, le droit à la vie, right to life, la vente des armes, ils sont largement abordés au même titre que les problèmes de politique intérieure et extérieure, d'économie, ou que la vie privée de chacun des personnages. Et pour info, Martin Sheen ne devait apparaître dans la série que pour les 4 premiers épisodes et au final il est resté jusqu'au bout.
Ah bah d'accord.
Ah ouais.
Et donc le tonton, bah c'était bien sûr Charlie Sheen.
Voilà, ouais. Bah oui, mon oncle Charlie.
Eh oui, j'adore. J'adore.
Oui.
Bonjour. Je le redis encore une fois.
Allez-y.
J'adore.
Ah ouais.
Ah, j'adore. Je l'ai dit deux fois.
Non,
après.
Trop.
Allez, question numéro 10 et bien sûr.
Pas de joker, les gars.
Eh ouais, bien sûr.
Tweet.
Oh
c'est la question tweet. Là, c'est vous qui décidez.
Voilà, faites comme vous voulez, c'est bon. Oh, oh.
Tranquille.
Pas mal d'adaptations de films en série en ce moment. Vous avez remarqué ?
Non.
C'est encore le cas de celle-ci, sortie il y a quelques semaines sur Prime. Elle est donc adaptée d'un film, lui sorti en 2005, avec au casting, gros indice, Brad Pitt et Angelina Jolie. Bien sûr, les deux acteurs qui jouaient des rôles de tueurs à gages. Quel est le nom de ce film ?
Ah,
et
oui,
du coup,
vous avez tout donné.
De la série, puisque du coup, elle porte le même nom. Voilà. Bon, là, c'est gratos. Hein.
Alors, je n'ai vu ni le film ni la série, mais j'aurais trouvé.
Bah oui.
Ah vous avez tout donné.
Bah oui, ils sont rencontrés.
Walter Blanco.
Cielo, cielo.
Metastasis. Ah oui, non, cielo nuevo.
Magnifique.
Non, cielo blanco.
Cielo blanco.
Bah oui, si, ouais. Skyler White.
Ah voilà, c'est ça. Bon, la série c'est Mr. and Mrs. Smith.
Mr. Mrs. Smith. Mrs. Smith, Mrs. Smith.
Très bonne chanson d'ailleurs. Était donc une série télévisée américaine créée par Francesca Sloane. Pourquoi je suis parti dans l'italien, je ne sais pas.
À cause de Francesca.
Oui, c'est vrai. Et Donald Glover, et adaptée du film du même nom sorti en 2005. Elle est diffusée sur Prime Video depuis le 2 février 2024, donc il n'y a pas longtemps. Le pitch, je vous vois bailler.
Ouais, je baille.
On a fait une petite soirée hier soir. C'est ça a mal fini.
Mais ça va, on est vivant.
Oui, c'est là, on est là. Le pitch, un homme et une femme qui ne se connaissent pas sont recrutés pour former un couple. Jane et John Smith. Une somptueuse demeure new-yorkaise est mise à leur disposition. Ils vont devoir réaliser diverses missions pour leur mystérieux employeur, tout en apprenant à se connaître. Alors, c'est une adaptation. Ça ne suit pas tout à fait l'histoire du film,
okay.
Mais je n'ai que de bons échos.
Ah bon ?
Ouais, oui, oui.
C'est vrai ?
Ouais, ce qui paraît, c'est vrai.
Okay.
Interprété donc pour Jane Smith par Maya Erskine et pour John Smith par Donald Glover, qui produit également la série.
Oui.
Et vous connaissez Donald Glover ?
Non.
Ben, si vous le connaissez, c'est la prochaine question.
Ok.
Incroyable.
Ouh.
Vous le connaissez, oui, sous le nom de Donald Glover, mais peut-être également sous le nom du rappeur, chanteur, Childish Gambino.
Gambino.
Je crois que vous l'avez déjà fait la dernière fois. Eh bien, ce chanteur-acteur a lancé sa carrière grâce à une série que j'adore.
Ah oui.
Une série comique.
Il était obligé.
Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé.
Une question sur cette série par Quiz Série.
Quelle est cette série ? Donald Glover, Childish Gambino.
Non, mais en vrai, je sais pas. Hein.
Ouais.
Non. J'ai vu, mais genre 8 épisodes.
De cette série ?
Oui.
Ok. Très bonne série.
Eh oui, il paraît.
Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Je suis content de le dire.
Allez !
Community.
Ok.
Donald McKinley Glover, né le 25 septembre 83. On a le même âge.
Super.
Génial. Sur la base aérienne de Edwards Air Force, Californie. Vous pouvez me faire avec l'accent ?
Sur the Air Force Base, Edwards Air Force, California.
Thank you. Il fréquente le lycée de Lakeside et l'école des arts de DeKalb. DeKalb, je sais pas comment on dit.
Ouais, l'école des arts.
Oui, bon voilà. Ça c'est pour la petite histoire, puisque j'aime bien cette anecdote. Il a été élu dans son lycée personne la plus susceptible d'écrire pour les Simpsons.
Ah oui, c'est le fameux texte qu'on met sur le bouquin de fin d'année à côté des photos.
Ah, génial.
Oui.
Ok, on n'a pas ça.
Non, ouais. Non, on n'a rien.
Rien,
les trucs bien.
Rien, les frères.
On n'a que les trucs pourris des États-Unis, on n'a pas les trucs bien.
On a le Coca, on a McDonald's.
Le Pepsi.
Et puis bien sûr, il n'a pas débuté sa carrière dans Community. Il a joué également dans 30 Rock. une série qu'on aime bien, avant, ou encore dans de petits films indés, mais il explose en jouant le rôle de Troy Barnes dans cette excellente série que je ne peux que vous recommander.
Très bien.
Community.
Question suivante. Petite question pour nos auditeurs fans de catch. Et je sais qu'ils sont nombreux. Dans les rings, il s'appelait Roddy Piper. Mais dans une série que l'on adore, oh, il se faisait appeler The Maniac. De quelle série s'agit-il ?
Je pense que je préfère cette série à Community.
Ah bah mais oui. Non, bien bon sûr. Après je sais pas, les deux sont forcément non, bien, mais
cette
bon.
Cette série incroyable.
Elle nous parle plus.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a fait plus de cuites que d'études.
Oh, oui, c'est vrai.
Eh oui.
C'est vrai. Et vu qu'ils s'en prennent des cuites quasiment dans tous les épisodes.
It's Always Sunny in Philadelphia. Roddy Piper, de son vrai nom Roderick George Toombs, né le 17 avril 1954 à Saskatoon, au Canada, et mort le 31 juillet 2015 à Hollywood, aux États-Unis, bien sûr, acteur et catcheur canadien, même si il était plus connu pour être écossais.
Ah, oui, c'est vrai.
Il avait ce rôle écossais, effectivement, mais il était canadien. On en a déjà parlé, Piper devient célèbre à Hollywood pour son rôle dans Day Live, Invasion Los Angeles de John Carpenter, mais il a également participé à plusieurs shows TV comme Cold Case, La Croisière s'amuse, Highlander et même Les Dessous de Palm Beach.
Incroyable. Mes premiers émois.
Ah oui, le dimanche après-midi sur TF1.
Oh oui.
Des jupes trop courtes.
De très belles femmes. Invasion Los Angeles, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est formidable.
Mais il est exceptionnel.
Il est formidable. On tombe dessus, on ne peut pas aller faire autre chose. On regarde.
Et It's Always Sunny in Philadelphia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est disponible sur Disney+.
Ouais, et franchement, allez voir. Dès le premier épisode, vous comprenez que ça va être une série de dingue.
Oui, encore que moi, j'aime bien à partir de la saison 2, parce que Danny DeVito arrive.
Ah ouais, là,
la saison 1, on sent qu'il se cherche un peu. D'ailleurs, elle devait se passer à Hollywood, la série, et raconter l'histoire des trois acteurs principaux, ou plutôt quatre d'ailleurs, puisqu'il y a l'actrice, qui galère dans leur vie de jeunes comédiens.
Okay.
Et il y avait trop de séries qui avaient déjà ce thème-là, donc ils ont ramené la série à Philadelphie et ils ont un bar.
Voilà, simple, efficace. Voilà. Et DeVito, juste, à un moment donné, il y a le feu et il arrive avec son flingue.
Un flingue pour éteindre le feu.
Il tire sur le feu.
Where's the fire?
Fire! Bon, ça nous fait rire. Allez, question numéro 13, c'est à vous.
On l'évoquait tout à l'heure, vous avez coupé ma question, hein, je voulais la musique.
Ah!
Vous l'avez pas, la musique?
Laquelle?
Bah, de.
Ah, si, bien sûr que je l'ai.
Ah. Magnifique. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you.
Non. On voulait encore un petit peu ou j'arrête là?
Encore. The sweetest beat war. Let it flow.
S'attendez au refrain plus rapidement.
It flows back to you. Ça y est.
The love boat.
Allez.
On s'arrête là.
Ouais.
Allez.
Croisière s'amuse. Saurez-vous nous donner le nom du bateau sur lequel se déroulent les épisodes?
Oh, ça c'est pas facile.
Un peu.
Oui,
un peu. Un peu et difficile à la fois.
Oui, c'est ça. Bah sinon, c'est aussi ça 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça fait plaisir, le retour, là. Si, vraiment.
Le Pacifique Princesse, La Croisière s'amuse, The Love Boat, est une série télévisée en 249 épisodes de 47 minutes créée par Aaron Spelling.
Le papa.
Eh oui, de Tori.
Tori,
Créateur aussi, justement, de Beverly Hills. Oui. Et diffusée entre le 24 septembre 77 et le 27 février 87 sur le réseau ABC. Et Paramount Channel rediffuse l'intégralité de la série à partir du 1er janvier 2024. Oh. Bon, là, j'ai vérifié, il n'y a plus que la saison 2 et 3.
Ah, super.
Et la série est rediffusée en Belgique sur Typique, c'est ça?
Typique.
Depuis le 20 novembre 2023, à bord du luxueux paquebot Pacifique Princesse qui vogue sur l'océan Pacifique, tout le monde ou presque cherche l'amour. Une équipe efficace et sympathique est là pour satisfaire au mieux les passagers. Et même si les choses ne se passent pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, l'amour finit toujours par triompher. Chaque épisode reprend le même scénario, trois histoires en parallèle. Un couple embarque en situation de séparation ou se dispute en début de croisière, puis se réconcilie avant la fin de l'épisode. Deux personnes qui ne se connaissent pas se rencontrent, se fâchent, puis vivent le grand amour. Un membre de l'équipage rencontre un des passagers, se dispute avec lui à cause de leur histoire passée. Un autre membre de l'équipage réussit à les réconcilier. Certains épisodes spéciaux crossover avec d'autres séries ne suivent pas nécessairement cette trame. 10 saisons donc, 249 épisodes, on retrouve Meryl Stubbing, le capitaine, ou encore, comment il s'appelle, le Doc, qui était doublé par Gérard Hernandez, que l'on retrouve sur la série courte d'M6 désormais. C'était donc le Doc Breaker, il y avait également Gopher, Burl Smith, qui était interprété par Fred Gonsu, bon, on s'en fout. Il y avait également Isaac Washington, bien sûr. Julie McCoy et Vicky Stubbing, qui, je ne sais plus si elle était la fille du capitaine ou sa fiole.
D'accord.
Dans la fin de la série, ils ont rajouté un personnage un peu plus jeune.
Oui.
Mais voilà, c'est connu aussi.
Pour lancer beaucoup de carrières.
Exactement. Il y a une vidéo de 8 minutes où vous voyez tous les guests. Vous pouvez chercher
Courtney
sur YouTube.
Cox.
Tom Hanks. Voilà. Enfin, quasiment tous les grands acteurs. Et effectivement, beaucoup des séries américaines de l'époque ont fait un crossover avec La Croisière s'amuse. On retrouve, je crois...
Arabesque.
Je crois. Elle était partout. Ah ouais, elle a fait un crossover avec Magnum.
Question statistique, Christophe.
Ouais.
On sent l'enthousiasme en tout cas. Quelle série américaine détient le record du plus grand nombre de blagues à la minute? On s'y attend pas.
Bah moi je connais pas du tout.
Ah ouais?
Je crois que j'ai même pas regardé un épisode en entier. Et d'ailleurs le monsieur qui tire, il joue dans cette série.
Il joue dans cette série là, ouais. Le monsieur qui tire.
Ah ouais, le monsieur
Martin
qui tire.
Sheen?
Non, Alec Baldwin.
Oui. C'est 30 Rock.
30 Rock.
Ça passait sur Comedy à l'époque, 30 Rock.
Ok.
Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais plutôt que c'était d'autres séries. Donc, avec en moyenne 7,44 blagues par minute. C'est elle qui détient ce record. Suivent sur le podium New Girl.
Alors, je connais pas du tout New Girl.
New Girl, si, ça me parle. C'est pas mal. Je crois que c'est. Non?
Ah non. Ok. Ah, ça me dit rien du tout.
Ok. Bon, Parks and Recreation derrière.
Parks and Recs.
The Office.
The Office.
Quand même. Et Brooklyn Nine-Nine, suivi de Friends, Friends, Amis, et Big Bang Theory avec 5,8 blagues par minute.
Ok.
Voilà. Et donc j'ai fait le calcul pour 30 Rock, ça fait une blague toutes les 8 secondes.
Oh purée.
Faut du rythme. Et j'ai fait la même question bien sûr pour la série française, pour les séries françaises.
D'accord, question 15 donc.
Question 15, ouais. C'est un programme court, indice. Voilà. Vous y attendiez? Vous y attendiez? Enfin, t'as compris quoi?
Non.
Non. Vous vous y
attendiez? Non, je ne m'y attendais pas.
Merci. Bref. C'est la réponse. Hein.
Ah oui, pardon, je m'étais endormi.
Bah oui, je vois. La réponse, c'est bref, avec 4,92 blagues, ce qui change quand même un peu de 30 Rock avec 7,44.
Oui, mais c'est pas, on n'a pas la même culture.
Oui, c'est ça. Suivi de Kaamelott avec 3,29. C'est pas beaucoup, hein?
Non, mais bon, merci. Non, mais on va pas débattre. Non, c'est pas beaucoup, mais.
Et H également, ça c'est en troisième position avec 2,96 blagues par minute.
D'accord.
Deux blagues en une minute, les gars, quoi. Enfin, les trois, quoi. Et Fais pas ci, fais pas ça, n'est qu'à 0,98 blagues.
Merci.
Par minute.
T'as le gars.
Pardon.
Vous aviez du temps à perdre, hein. Soi-disant, ça bosse et ça compte le nombre de blagues dans Fais pas ci, fais pas ça, quoi.
Et bon, pour bref, ils font une blague toutes les 12 secondes. Ça va.
Pas mal quand même. Ah oui.
Franchement, ça va. Question numéro 16. Alors, pas de joker, les gars.
Là, c'est chaud. Mais petite question pour les nostalgiques. Oh. Pendant mes recherches pour ce quiz, je suis tombé par hasard sur le titre de cette série. Cela faisait des années que j'y pensais, mais je n'arrivais jamais à me souvenir du titre.
Okay.
Alors, j'ai fait une question comme ça, maintenant, je sais où retrouver le titre. Donc, le pitch. La ville d'Erie. Je sais pas pourquoi il y a 16 661 habitants. Je crois que dans le générique on voit le panneau avec dans l'Indiana est le théâtre de phénomènes étranges remarqués seulement par deux adolescents. Et le titre est justement le prénom de ces deux adolescents. Vous vous en souvenez?
Non.
Ah, moi j'adorais.
C'était.
Il y a pas beaucoup d'épisodes. Il y a 19 épisodes. Mais j'attendais cette série avec impatience. Ça passait sur la 2.
Ah ouais.
Oui.
Mais c'est pas celle qui fondait hein, qui. Comment elle s'appelait celle-là? Où elle avait été
chair de poule?
Non.
Ah non, non, pas du tout, non. Oh, effectivement, ça. Souvent, quand j'évoque cette série, les gens me parlent effectivement
de la fille qui
était dans une qui a été touchée par un truc.
Voilà.
C'était Marshall et Simon ou Erie, Indiana. C'est une série télévisée en 19 épisodes de 24 minutes créée par Carl Schaeffer et José Rivera et diffusée entre le 15 septembre 91 et le 12 avril 92 sur NBC. La série a été diffusée à partir du 6 janvier 93 dans l'émission Big Bang sur France 3 et au Québec à partir du 6 septembre 94 sur le canal Famé. En 99 et 2002, elle est rediffusée sur France 3 dans les minicoms sous le nom de Eerie Indiana. Et pour info, c'est pour ça que c'était cool aussi, c'est Joe Dante, le légendaire réalisateur de Piranhas, Gremlins ou encore Small Soldier, qui a été consultant exécutif sur la série et a réalisé 5 épisodes.
Énorme.
Donc le côté vraiment horreur, il y avait des épisodes, c'était assez sombre et en même temps joyeux. Marshall et Simon, allez voir peut-être sur YouTube le générique, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. En tout cas moi, je suis content, je m'en souviendrai. Et tant pis si vous n'avez pas de points.
Mais il y avait quoi comme phénomène?
Ben il se passait des trucs bizarres. Il y a par exemple un épisode complet sur un de leurs potes qui genre qui vit à la James Dean. Et cette phrase, elle est dans l'épisode, c'est une série pour enfants, et le mec dit vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. C'est une phrase que j'ai gardée toute ma vie, quoi, et malheureusement, je l'ai loupée.
Oh, tant mieux.
Bah, le cadavre, ça moche, hein, croyez-moi.
Oh là là.
En tout cas, je m'y attelle. Allez.
Pas de joker, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
D'ailleurs, on n'a pas du tout donné le nom du gagnant de. Ouais, bon.
Il y a un gagnant. Il y a des cadeaux.
On va le faire.
Ouais, c'est ça.
On va le faire. Mais promis.
Ne rêvez pas.
Dans la série House of Cards, vous l'avez vu?
Non.
Moi non plus. Je déteste les séries politiques.
Ah.
Comme ça, vous le savez. Okay. Question en rapport à cette série, quand même, de merde.
Malade.
Quel est le rapport entre la série
House... je l'ai vu, mais je me suis dit, comme j'ai pas vu la série, je vais pas en parler.
Bah voilà, moi je le fais. Quel est le rapport entre la série...
C'était sur Allociné.
Peut-être, ouais. Quel est le rapport entre la série House of Cards et un jeu de cartes ordinaire? Après, il fallait trouver la question, comment poser la question. C'est pas très bien...
Non, c'est chaud.
Eh oui.
Faut le savoir, quoi.
Quel est le rapport entre la série House of Cards et un jeu de cartes ordinaire? Voilà.
Vous avez répété exactement ce que vous avez dit il y a une minute.
Oui. Chaque saison de la série House of Cards comporte 13 épisodes, un pour chacune des 13 cartes d'une même couleur.
Ok.
Voilà.
Cool.
Personne ne l'a. Peut-être.
Si. Il y a des fans. Non, mais c'était une série quand même très respectée et adorée. Un peu comme West Wing.
Oui.
Même plus que West Wing d'ailleurs.
Oui, certainement, ouais. House of Cards où ?
Le château de cartes au Québec.
Merci. Série télévisée d'un thriller politique américain créé par Bo Willimon. La série est notamment réalisée par David Fincher, également, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Elle est l'adaptation de la série britannique Château de cartes.
Ah oui.
Je savais pas.
Moi non plus.
Elle-même adaptée du roman de Michael Dobbs. Ouais. Et chaque saison comporte donc 13 épisodes d'environ 55 minutes, hormis la sixième et dernière, avec 8 épisodes. Bon, ils sont pas allés au bout du jeu de cartes. La série traite des thèmes de la trahison, de la manipulation, du pouvoir et du pragmatisme impitoyable. Pas facile,
pragmatisme impitoyable.
Bon, d'accord. Question numéro 18.
Question 18, Charlie Musique. Ah oui. Allez. Chez vous.
Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les rives du fleuve.
Ah, moi j'ai les rives ou les bords Bon, bref.
Et pour tout ça, la vie.
Bon, je ne vous ferai évidemment pas l'injure de vous demander le titre du dessin animé.
Oui.
Déjà parce que c'est facile et surtout parce que c'est répété 15 fois dans le générique. Par contre, un peu de culture. Saurez-vous nous dire qui est l'auteur du roman Les Aventures de Tom Sawyer?
Pas facile. On l'a su.
Oui, certainement.
Oui, et on l'a oublié.
Possible.
Oui. Mais c'était une bonne question. Et c'était une super série, super dessin animé.
C'est Mark Twain.
C'est le cousin de Shania.
Alors, Les Aventures de Tom Sawyer, titre original The Adventures of Tom Sawyer, est le premier roman que Mark Twain a écrit tout seul.
Ah ouais.
Il est publié en 1876, d'abord en Angleterre en juin, puis aux États-Unis en décembre. Mark Twain y compte les aventures d'un garçon du sud des États-Unis, Tom Sawyer, vers 1844, avant la guerre de sécession, dans la ville fictive de Saint-Pétersbourg, au Mississippi, sur la rive droite du Mississippi. En partie autobiographique, l'histoire s'inspire du moins, dans ses premiers chapitres, de l'enfance de l'auteur passée à Hannibal, au Missouri, et recréée par la fiction autour du jeune protagoniste dont la personnalité domine le roman. Ses frasques constituent l'essentiel de l'action et sa gouaille triomphante confère au roman une unité que l'ordre strictement chronologique du récit ne garantit pas.
Ça c'est beau, ça c'est bien dit.
Les aventures de Tom Sawyer est le plus célèbre des romans de Twain et aussi son plus grand succès de librairie de son vivant jusqu'au 21e siècle. Considéré comme un classique de la littérature de jeunesse, l'auteur le qualifie de roman pour enfants pour adultes.
Ah.
Oui, parce que ça peut, il y a plusieurs lectures.
Oui,
quoi. D'emblée catalogué comme humoristique, genre alors jugé mineur, ses innovations littéraires restent longtemps négligées et c'est seulement plusieurs décennies après la mort de l'auteur qu'il est reconnu comme l'une des œuvres fondatrices de la littérature américaine.
Ah ouais, quand même quoi.
Eh oui.
Ah, monsieur.
Et il y a sorti un deuxième livre dont on pense que c'est la suite, Les aventures d'Huckleberry Finn. Et ce n'est pas la suite, mais
on retrouve Huckleberry Finn.
C'était ça le...
Je crois que c'était ça.
En tout cas, c'est très sombre, hein. Dans le livre, il y a du meurtre, il y a Joe l'Indien, le terrifiant Joe l'Indien, il est dans le livre. Mais voilà, le dessin animé évidemment a bercé l'enfance de tous les enfants qui sont nés dans les années 80.
Oui, c'est ça en fait. Si vous êtes né en 2000,
non, vous
ça
vous, pas, vous êtes peut-être tombé dessus.
Oui, j'espère.
En tout cas, le générique est incroyable.
Clairement. Question numéro 19. Eh, hey, pas de Joker, les gars!
Le quiz!
Ouais, c'est le Joker. Quelle série documentaire qui fait un carton sur Netflix en ce moment revient sur l'histoire rocambolesque, je me permets de dire ça comme ça.
Bien sûr, allez-y.
D'un certain Claude Vaurillon, mais on parle également de ses adeptes. Indice.
Mm-hmm.
Claude Vaurillon.
Ouais, c'est comme Tom Sawyer. Hein. Si vous êtes né dans les années 80, vous l'avez vu passer à la télé, on connaissait pas forcément son nom.
Ouais. Non, mais, oui, justement,
mais
c'est
maintenant,
ça.
Effectivement. Il a été... depuis, moi j'ai regardé. Et ensuite, je suis allé sur YouTube et j'ai recherché toutes les archives possibles et imaginables.
Malheureusement,
il n'y en a pas tant que non plus. On ne retrouve pas l'émission, notamment avec...
De Chavannes.
Ah,
dommage. Donc, la réponse est Raël.
Bien sûr.
Allez voir ce documentaire, c'est quand même assez fou.
Oui, ils auraient pu faire plus d'épisodes.
C'est vrai, ils en auraient pu en faire
30. Et puis, pourquoi ils sont allés l'interviewer pour lui laisser dire trois mots?
Je suis assez d'accord. Il nous met des images dans tous les épisodes.
Et il est totalement silencieux. Puis à la fin, il a le droit de dire trois mots.
C'est ça.
On aurait bien aimé. Alors, allez-y.
Claude Vaurillon dit Raël, né le 30 septembre 46 à Vichy, est le fondateur et gourou du mouvement raélien, objet de nombreuses controverses et classé en France comme secte par un rapport parlementaire de 95 quand même. Il a été auparavant chanteur sous le nom de Claude Célère ou Célé. Je sais pas, avec des titres comme Le miel et la cannelle, Madame Pipi, Monsieur votre femme me trompe, Quand on se mariera, Sacré sale gueule.
Celle-là, on l'entend beaucoup, Sacré sale gueule. Ah oui, c'est celle qu'on entend pendant tout le documentaire.
D'accord. Et puis il a également été journaliste sportif automobile.
Ouais, et puis après, il a fait de la course automobile, payé par les adeptes.
Ce moment est incroyable. Le mec, il roule dans une bagnole qui doit coûter 500 000 balles.
Ouais.
Et le mec, il écrit Raël.
Raël.
Et les gens, ils se Ouais, on te donne de l'argent. Ça, c'est formidable. Mais tout change dans sa vie lorsque Claude Vaurillon affirme, bien sûr, avoir vécu deux expériences d'une rencontre rapprochée du troisième type avec
des extraterrestres. Bah oui, c'est un peu le principe des rencontres du troisième type. Hein.
Oh, je sais pas. D'après sa description, le 13 décembre 73 au soir, alors qu'il se promène au Puy de la Vache et au Puy de Lassolas, il prétend apercevoir une soucoupe volante qui atterrit devant lui. Un être extraterrestre en sort, parlant français, bien sûr, et lui dit d'être... Il lui dit être venu pour le rencontrer, lui donner un message qu'il aura pour mission de répandre dans tous les pays.
Mmh.
Voilà. Toujours selon lui, il reçoit alors son nom de prophète, Raël, qui signifierait « messager des Elohim ».
Elohim, Elohim. Mais on se rend compte que le sketch des Inconnus,
incroyable.
Je m'en rendais pas compte moi quand j'étais petit, mais est certainement très inspiré de Raël en fait.
Ouais, c'est génial. Les entretiens dureront 6 jours à raison d'une heure par jour. Ils feront l'objet de son premier livre, le livre qui dit la vérité.
Purée, je le veux ce bouquin.
Je crois qu'il doit être introuvable quoi.
Oh enfin, non, je pense que bah oui, j'imagine.
Lequel affirme que toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par ces extraterrestres, les Elohim, grâce à une maîtrise du génie génétique et une avancée scientifique de 25 000 ans.
Mais en vrai, il se base en réalité sur beaucoup de...
Sur Star Wars.
Non, beaucoup de... beaucoup de théories qui sont nées dans les années 70, reviennent effectivement au fondement de la civilisation, notamment chez nos amis... j'ai oublié maintenant. Mm-hmm. Les...
Ah oui, avec... Vous m'en avez déjà parlé, je crois.
Bah, les Anunnaki.
Ah, voilà, c'est
qui,
ça.
Qui seraient venus d'une planète pour, effectivement, conquérir la Terre. Oh. Et ils ont créé les êtres humains. Et lui, en fait, il s'est basé sur toutes ces théories qui ont été relatées dans les années 70 dans plein de bouquins.
Ouais.
Et en fait, il a fait son petit mix, quoi.
Bah oui, c'est ça. On connaît la suite, hein, bien sûr.
Les Sumériens. Je cherchais Sumères.
Les Sumères, les Sumérites. On connaît la suite, scandale sexuel, malheureusement.
Quoi, malheureusement?
Bah oui, mais il a.
Oui, mais enfin, malheureusement, il l'a cherché, c'est
oui,
ça que
oui.
je veux dire.
Non, mais malheureusement, je parle pas pour lui.
Non, malheureusement pour elle, parce que j'ai toujours ma carte. Franchement, ça a mal tourné.
Mais non, mais pour les personnes qui ont été malheureusement abusées.
Ah bah
quoi,
oui, bien sûr.
Faux clonage humain, enfin, on sait pas si c'est vrai ou pas.
Ouais,
bon, on
sait pas où est l'enfant, j'ai pas l'adresse.
Allez voir cette série de 4 épisodes, c'est assez flippant de voir des gens quand même se laisser emporter dans cette folie, un petit peu. Les premiers épisodes sont vraiment... Waouh, c'est impressionnant.
Ben, ça commence gentiment.
Ouais.
Et puis, ça dégénère très vite.
Oui, c'est ça.
En fait, au début, on se dit, ouais, bon, ça va, c'est pas méchant, mais effectivement, très vite, c'est une secte, quoi.
Bah ouais. C'est bien résumé.
Mais ouais, les gars. Spoiler, c'est pas la peine de regarder Netflix.
Non, c'est une secte. Voilà, point. Dernière question. Eh, pas de joker, les gars.
Bon, je ne voulais pas terminer... Le quiz, pardon.
Ah.
Je ne voulais pas terminer sans parler de l'une des séries qui m'a le plus marqué. Code Quantum.
Oh là, ouais.
Pour les amoureux de la série, ça sera easy, je pense. Pour les autres, désolé. Mais quelle chanson entend-on durant les dernières minutes du dernier épisode de la série?
J'adore, on en parle régulièrement. C'est un peu votre community à vous.
Ah, peut-être. Oui, c'est vrai que je place toujours une question.
Mais je suis assez d'accord, c'est vraiment une série qui nous a marqué.
Bah oui,
elle est extraordinaire, cette série.
Mais parce qu'elle est elle est magnifique,
ouais.
Parce que ça change à chaque épisode,
ouais.
Puisqu'il se transmute de personnage, passant dans la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé.
Ouais.
Mais en plus, effectivement, il y a une énorme bande originale. Parce que ils remettent dans l'ambiance,
oui.
Ils sortent les musiques. Et justement, je crois que ça avait causé des problèmes pour les versions
droits.
DVD,
ah, ouais, ouais.
Qui n'ont pas pu être diffusées puisqu'ils n'ont pas payé les droits des musiques. En tout cas, la musique des derniers instants de la série, c'est évidemment Georgia On My Mind.
On a l'extrême, Michel.
Malheureusement, on l'a que en VO.
On y est.
Beth, la femme de Hal, qui danse toute seule en pensant à son mari décédé, mais qui n'est pas décédé.
How did you get in here?
I'm not gonna harm you. I'm here to help you. Help you and help out.
Ah, c'est bon. On arrête là parce qu'on va pleurer sinon.
Non, attendez. J'ai une histoire.
Ça va peut-être couper.
You're a friend of Hal.
Yes.
Yeah. I'm a friend of Al's.
Allez, commence par la fin.
Do you think we could sit?
Allez, oui, tu peux t'asseoir. Vas-y.
J'ai peut-être pas tout l'extrait non plus.
Oh non! Bon, allez, c'est bon.
Ça va couper au bon moment, je pense. Let me tell.
Al is alive. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui annonce que son mari, qu'elle pensait décédé pendant la guerre du Vietnam, était en fait détenu prisonnier et reviendra. Et là, ça coupe. La série devait se poursuivre, mais ils ont appris durant le tournage de la dernière saison que non. Donc ils ont dû improviser ce dernier épisode. Et quand vous allez voir en dessous de cette vidéo sur YouTube, beaucoup disent c'est le meilleur dernier épisode d'une série dont la fin a été entre guillemets improvisée.
Okay.
Et donc ça s'arrête là. Ils lui annoncent que Al est toujours vivant. Et donc on a un panneau noir et du texte qui s'affiche. Et ça dit Beth ne s'est jamais remariée. Al et elle ont eu 4 enfants et le dernier texte, le docteur Sam Beckett n'est jamais rentré chez lui.
J'en ai des frissons.
Non,
mais vraiment, j'en ai des frissons.
Ah oui.
Cette
magnifique
série, ouais.
Magnifique série. Après, c'est vrai que ça a sans doute un peu mal vieilli.
Non.
Mais tous les épisodes dans des mondes différents, humour, drame. Mais évidemment science-fiction et on retrouve des personnages célèbres. C'est Sam Beckett qui aurait appris le moonwalk à Michael Jackson. Il joue Elvis dans un épisode, il reprend, en plus c'était un chanteur incroyable, donc il reprend Blue Moon of Kentucky, il fait de l'opéra où il chante magnifiquement Don Quichotte. I'm Don Quixote, the man of la Mancha, qui avait été reprise en France, mais bien avant ça, par Jacques Brel.
Ah bah bravo. C'est comme ça qu'il...
Non, oh bravo.
Ah, mais voilà.
Et en anglais, oh boy.
Oui, c'est vrai. Bon bah voilà, ça m'a mis le cafard.
Mais malheureusement, il y a eu un reboot.
Ah oui, bah, j'ai pas vu.
Ah oui, sans évidemment Dean Stockwell qui nous a quittés, et pas non plus, comment s'appelle-t-il, Scott Bakula.
Scott Bakula, bien sûr, j'adore. Voilà, je suis pas bien. Dernière question, c'est la question bonus.
La question bonus, c'est celui qui se rapproche au plus près, qui, 5 points, on avait dit.
À la base, on faisait plus les questions bonus parce
qu'on
offrait.
Bah oui, qu'est-ce que. On a complètement oublié.
Totalement,
il y a plus de cadeaux, les gars.
Voilà, si, il y a des cadeaux, on va la jouer vachement plus simple. Dans la série Friends. Dans quel café? Comment s'appelle le café dans lequel il se retrouve?
Oui, alors là, c'est
cadeau.
C'est offert.
C'est cadeau. Prenez le cadeau que vous n'aurez certainement
jamais.
J'aime bien parce qu'il y a des mecs en commentaire qui disent « Je joue même si je sais que je ne recevrai jamais de cadeau ».
C'est bien.
Bon, merci à tous. On est de retour, les gars. On est de retour pour 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Et ça fait plaisir. Franchement, 3 semaines, c'était quand même très long.
Trop.
Ouais, trop long. Mais c'était les vacances et puis on n'a pas du tout les vacances puisqu'on travaillait.
Je ne sais pas si j'ai manqué à 40 mètres, les gars, le quiz. Mais 40 mètres, les gars, le quiz m'a manqué. Passionnément. Amoureusement. C'était...
C'était beau, déjà, pour commencer.
J'ai oublié son nom. Cette grande actrice, César, qui est décédée quelques années plus tard. Elle était, je crois, déjà malade, d'ailleurs, au moment où elle dit « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais le cinéma français m'a manqué. »
Girardot ?
Annie Girardot.
Ouais, on a quand même un peu de culture, ici. Hein. Sur ce, on se retrouve vendredi pour 15 minutes, les gars.
Le quiz.
Bisous.
Bisous.
C'était beau, franchement.